concernant les services alternatifs au taxi. À suivre également, dans quelques minutes, entretien avec Anouk Chavelzon, une autrice qui partage son métissage avec l'héroïne de son premier roman, Le Bleu n'abîme pas. Elle sera au micro de Tirthankar Chanda. Également à suivre, 100% création, à la découverte des joyaux de Notre-Dame de Paris, où les visiteurs sont à nouveau les bienvenus depuis le début de la semaine. Mais avant ça, les sports. Et le journal des sports, c'est avec vous ce matin, Christophe Diremzian. Bonjour Christophe.
Bonjour Simon.
Et du football à la une avec la suite du deuxième tour aller des éliminatoires du CHAN 2025. Journée marquée par deux bonnes opérations à l'extérieur.
Oui, la phase finale se rapproche pour l'Angola, vainqueur au Lesotho 2-0. Même résultat pour Madagascar en déplacement en Eswatini. Ça reste plus ouvert. En revanche, à l'issue des deux autres matchs disputés hier, 0-0 entre la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Et un but partout à Abidjan entre le Tchad et la RDC. Les Léopards A' ont ouvert le score en première période mais n'ont tenu leur avantage que 7 petites minutes avant l'égalisation des Sao. Pas très content le sélectionneur des Congolais, Otis N'Goma Kondi, d'avoir vu ses joueurs se relâcher un petit peu trop vite après avoir marqué.
On est bien rentré dans le match déjà. On a marqué rapidement. Je crois que ayant eu la position du ballon, on a joué un peu trop facile. Il y a eu quand même un certain manque de respect de l'adversaire parce que les gars croyaient qu'ils allaient beaucoup marquer. Donc ce qui fait que quand vous jouez avec la baballe, et forcément, il y a des erreurs et puis ça ne pardonne pas. On les a donné un but qu'on pouvait éviter. Le résultat ne nous satisfait pas tellement, mais quand vous ne pouvez pas gagner un match, il faut savoir qu'un match nul pourrait être raisonnable. On a eu des imperfections dans certaines zones du terrain, où en rentrant chez nous, on doit perfectionner afin qu'on puisse leur poser plus des problèmes qu'on les a posés aujourd'hui et qu'on puisse marquer un but de plus que l'adversaire.
Otis N'Goma Kondi avec Mo Lamine Sissavané. Sachez également que la première manche du match Burundi-Ouganda n'aura finalement lieu que jeudi et que la Zambie est directement qualifiée pour la phase finale du CHAN après le retrait du Mozambique.
Et Christophe, 8 nouvelles rencontres sont au programme aujourd'hui.
À commencer par le match des tenants du titre. Les Sénégalais opposés au Liberia à 16h TU. Il y a aussi Centrafrique-Cameroun délocalisé comme Tchad RDC à Abidjan. Simplice Sow, l'entraîneur des Camerounais A', semble très confiant. Il veut faire les choses vite et bien.
Nous sommes préparés dans de très bonnes conditions. En matière de football, le Cameroun est leader et les joueurs sont conscients, nous sommes tous conscients et il faudrait que nous maintenions notre place de leader dans la sous-région. Nous souhaitons nous qualifier au match aller parce que nous voulons mettre tout en place pour ne pas avoir de surprises. Ça, elle n'est pas venue en victime résignée, mais nous allons essayer de tout faire pour avoir le bon résultat à Abidjan. Nous avons une petite idée de la RCA. Nous savons qu'ils ont un championnat qui a commencé avant nous. Certains d'entre eux qui jouent dans leur équipe A. Donc nous nous sommes préparés en conséquence et nous espérons que ce que nous avons préparé va porter des fruits.
Des propos recueillis par Joël Wadem, Centrafrique-Cameroun, coup d'envoi 19h, temps universel. À suivre par ailleurs, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, Togo-Niger, Mauritanie-Mali, Ghana-Nigeria, Éthiopie-Soudan et Soudan du Sud. Rwanda, toujours en foot, mais en club cette fois, un match décalé de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les tenants du titre, les Égyptiens d'Al Ahly, deuxième du groupe C derrière les Sud-Africains d'Orlando Pirates, reçoivent le CRB Louisdad à 16h, temps universel.
Un journal des sports signé Christophe Diremzian, merci à vous.
RFI, toute l'actualité, Simon Bourtembourg.
RFI, 5h passées de 5 minutes ici à Paris. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2024. Un point sur les principaux titres de l'actualité internationale. Avec en Allemagne, l'hommage hier aux victimes de l'attaque à la voiture Bélier sur un marché de Magdebourg. Le dernier bilan provisoire fait état de 5 morts et 200 blessés. Environ 2000 personnes se sont réunies, dont le chef de l'État et le chancelier. Les motivations de l'auteur d'origine saoudienne sont encore confuses. Il avait été évoqué ces dernières années sur les réseaux sociaux vers un discours radical, matiné, même complotiste. Il ne sachait pas s'il était sympathisant pour les thèses d'extrême droite contre l'immigration musulmane. À la une également, un accident de car suivi d'un incendie que le président Lula a qualifié de tragédie. Nous sommes au Brésil. Accident qui a fait 38 morts samedi dans le sud-est du pays. Le pape François condamne lui la cruauté d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Frappe qui a tué 7 enfants selon la défense civile du territoire palestinien. Au Yémen cette fois, l'armée américaine a annoncé hier avoir mené des frappes contre les installations militaires des Houthis dans la capitale Sanaa. Des explosions ont été entendues dans la capitale yéménite. Notre reportage du jour à présent qui nous amène au Maroc où la guerre entre chauffeurs de taxi et VTC fait rage. À Casablanca, il y a deux semaines, un diplomate s'est retrouvé malgré lui au cœur d'une dispute entre un chauffeur sous licence taxi et un VTC. Une altercation qui a relancé le débat au Maroc. Le Maroc où Uber n'opère plus depuis déjà 6 ans. Mais d'autres applications de transport se sont depuis lancées sur le marché et ce malgré le vide juridique concernant les services alternatif au taxi. À Casablanca, le reportage de François Humferkataji.
Mustapha parcourt les artères de Casablanca depuis 5 heures du matin dans son petit taxi rouge au siège défraîchi. Il est chauffeur depuis plus de 10 ans. Selon lui, le métier devient de plus en plus pénible. Les bouchons kazaouis lui rendent le quotidien difficile et l'essor des applications de transport l'inquiète. Pour lui, ces applications devraient être réservées uniquement aux taxis rouges.
Le problème, c'est que des véhicules personnels arrivent sur ce marché et les chauffeurs de taxis sont obligés de partager leur clientèle avec ces nouveaux acteurs. Ça réduit notre pouvoir d'achat et ça nous fatigue au quotidien. Il faut réguler le système de transport urbain. Et c'est l'État qui doit le faire.
Sur la toile, les vidéos se multiplient, montrant des chauffeurs de taxi lancer des attaques verbales ou physiques contre les conducteurs utilisant ces applications avec leur véhicule personnel et accusés de ne pas respecter la loi. Le mois dernier, la presse marocaine a largement relayé l'histoire d'un ressortissant russe qui s'est interposé pour séparer un chauffeur de taxi et un chauffeur de VTC en pleine bagarre. Le chauffeur de taxi a été mis aux arrêts. À Casablanca, Youssef, conducteur pour une application, âgé de 65 ans, a appris à éviter ses collègues taxis.
Ça fait 2 ans que je fais ce travail-là ou ce service-là. Au début, on avait beaucoup de problèmes. Mais j'évite les chauffeurs, j'évite la police. J'essaie d'éviter.
Les entreprises du digital qui opèrent au Maroc n'ont toujours pas réussi à convaincre les autorités de légiférer pour permettre aux chauffeurs privés de travailler légalement. C'est ainsi qu'Hicham, chauffeur InDrive à Marrakech, s'est fait retirer son permis.
J'étais dénoncé par les taxis. Eux, ils ne voulaient pas que ces applications travaillent ici au Maroc. J'étais arrêté, j'étais choqué. Bien sûr, les clients aussi ont été choqués par ce geste-là. Ils m'ont pris mon permis pour 3 mois. C'était pas facile pour moi parce que c'est ma seule source. Bien sûr, la voiture a été confisquée et j'ai payé une pénalité.
Pour éviter les problèmes, les clients des applications sont invités à s'asseoir à l'avant et régler la course le plus discrètement possible. Situation paradoxale, bien que les chauffeurs de VTC travaillent toujours dans l'illégalité, certaines applications comme l'américaine InDrive affichent ses publicités dans la rue. François Imferkataji, Casablanca, RFI.
Et comme chaque dimanche, la chronique Chemin d'écriture à la découverte d'une nouvelle génération d'écrivains aujourd'hui. Une génération notamment incarnée par Anouk Chavelzon, une autrice à l'histoire familiale éclatée entre le Niger, l'Argentine, l'Algérie et la France. Un métissage que partage l'héroïne de son roman Le Bleu n'abîme pas, un premier ouvrage que nous fait découvrir ce matin Tirthankar Chanda.
Le bleu n'abîme pas, voici un titre de roman peu banal. Anouk, vous pourriez nous expliquer d'où il vient ce titre ?
J'ai choisi ce titre d'abord parce que au cours de l'écriture du roman, j'ai lu Beloved de Toni Morrison, personnage de Baby Suggs, qui à un moment dit que s'il y a bien deux choses qui sont inoffensives dans ce monde, c'est le bleu et le jaune. Et moi, ça me parlait beaucoup dans ce roman où je tisse... La thématique des couleurs est l'un des premiers textes que j'ai écrit. C'est l'ouverture du roman qui commence avec beaucoup de bleu. Et ça faisait sens pour moi de donner à cette couleur une place également dans le titre. Le bleu, dans le roman, il sert à recouvrir toutes les émotions néfastes qui ressortent pour le personnage. Et le personnage principal du roman, au début du roman, vit une agression qui fait ressurgir et remonter plein de questions concernant ses origines, puisque la question première posée par l'agresseur, c'est « tu viens d'où ?». Le bleu, ça représente une forme de déni. Et le personnage progressivement se rend compte aussi qu'il faut laisser émerger d'autres couleurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de couleurs qui sont décrites et que le rouge est là bon, symboliquement aussi pour représenter une autre force et plus violente, mais qui a aussi des aspects de plus positifs, une manière de guérir.
Que raconte votre roman ?
Pour moi, c'est l'histoire d'un personnage qui se réapproprie son histoire. À travers trois moments clés, il y a une première partie qui est fragmentée, mais avec deux lignes qui se répondent en permanence. Il y a la scène de l'agression et des souvenirs qui sont suscités par ce moment de l'agression, et donc l'agression est morcelée. La deuxième partie, c'est une partie qui est plus linéaire, où on suit un personnage sur une journée. Dans la troisième partie, on retrouve une forme de narration fragmentaire, celle d'un entretien que le personnage retrouve de son grand-père maternel nigérien, qui parle à la télévision, un rêve que le personnage fait de ce grand-père. Ces trois moments qui sont progressivement apparus comme les trois moments que j'avais envie d'écrire pour ce personnage. C'est un roman que je voulais très visuel, au sens où il y a beaucoup d'images, et l'image du tissage ou de l'entrelacement qui fait référence aussi à ces lignes mêlées du métissage.
Ce métissage qu'incarne votre héroïne Luna. Luna, c'est vous, non ?
C'est un alter ego. Ça me tenait à cœur que ce soit pas seulement moi. Pour moi, c'était quand même important de m'extraire de détails familiaux pour faire personnage. Moi, ce que je voulais, c'était prendre des libertés par rapport à moi, ce que j'ai vécu, pour faire une histoire. C'est pour ça que c'est écrit à la seconde personne du singulier. Cette seconde personne du singulier est apparue comme une manière de créer une voix singulière.
Il n'y a pas beaucoup de personnages de métis dans le corpus littéraire français.
En tant qu'adolescente et jeune femme, j'ai eu du mal en fait à m'identifier à des personnages de littérature. Je me suis identifiée à des émotions, je me suis identifiée à des situations, mais rarement à la réalité physique des personnages que je rencontrais au cours de mes lectures. Et c'était une manière de remédier à ça en créant ce roman où on représente un corps métissé, racisé, qui vit des agressions verbales et physiques, mais qui est aussi fière en fait d'où elle vient.
Un chemin d'écriture signé Tirthankar Chanda, à découvrir chaque dimanche matin à la radio et quand vous le voulez sur le site www.rfi.fr. À Paris, la cathédrale Notre-Dame a retrouvé sa vie normale cette semaine. 5 ans après le terrible incendie qui a ravagé l'édifice, les visiteurs sont à nouveau les bienvenus. Les groupes de pèlerins venus du monde entier seront eux attendus à partir du 1er février 2025. Et RFI vous emmène ce matin à la rencontre de ceux qui ont rendu possible la réouverture de la cathédrale. Régis Mathieu a travaillé sur ce chantier emblématique. Maître artisan spécialisé dans la création, la réédition et la restauration des luminaires, le Français a fait de son atelier une référence en matière de lustre haut de gamme. Régis Mathieu au micro RFI de Maria Afonso.
Le mot lustrier, quand je le dis pour la première fois, les gens me regardent bizarre en disant « c'est quoi ce métier ?» alors que tout le monde sait ce que c'est un lustre.
Régis Mathieu, lustrier.
Je laisse cours à mon côté artistique. Et je crée comme ça un pendant à ma collection de lustres, qui m'est personnel dans le choix et dans l'œil, si vous voulez, mais aussi qui raconte une histoire.
Régis Mathieu est originaire de Marseille. Sa famille est dans les luminaires, haut de gamme, contemporain. Il suit des études en école de commerce et en même temps son apprentissage du métier dès l'âge de 20 ans. Après le décès de son père, sa mère reprend l'entreprise. À la fin de ses études de commerce, c'est à son tour. Il repositionne alors l'entreprise pour que le lustre soit un objet de luxe, à la croisée de l'artisanat et de l'esthétique contemporaine. L'engagement de Régis Mathieu est profond pour la sauvegarde du patrimoine, avec des projets publics comme celui de Notre-Dame de Paris.
Une fois qu'on avait tout nettoyé, il restait des traces de jaune, des traces de marron, de noir. C'était assez élégant. Pourquoi pas garder les lustres comme ça ? C'est la patine du temps. Donc on fait un essai, on restaure un lustre, on met des bougies, on l'emmène à la cathédrale, on fait un essai. Là, ça a duré 10 secondes. Waouh ! Le lustre, la cathédrale l'a rejeté. Il était vraiment pas beau. On s'est dit non, c'était pas une bonne idée. Donc je dis, un des lustres qui est le plus abîmé, si vous voulez, je le refais neuf, que l'on voit comment c'était quand ça avait été livré. On fait un lustre tout neuf, qu'on trouve quasiment clinquant à la lustrerie. Mais c'est ça, hein, c'était le travail de Viollet-le-Duc, c'est bruni, c'est brillant, il y a des parties qui sont volontairement clinquantes, et c'était le souhait de l'architecte, et puis dessus des feuilles qui sont plus mates pour créer des volumes. Et ce lustre, on l'emmène à la cathédrale, et alors ça nous a fait l'effet inverse. Là, on est resté une heure à le regarder, parce qu'on s'est dit, waouh, ça va vraiment bien, quoi, c'est ça.
La reconstruction de Notre-Dame de Paris n'aurait pas été possible sans les métiers d'art et leur savoir-faire. Et pour Régis Mathieu, c'est un chantier à part dans son parcours.
Là, on s'est aperçu que sans les métiers d'art, sans ces savoir-faire, ces corporations, on n'aurait peut-être pas été capable de reproduire Notre-Dame. Et il y aurait un parking aujourd'hui de 5 étages à la place de Notre-Dame. Et donc, merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Toute cette équipe merveilleuse qui travaille sur ce chantier. À la lustrerie, personne n'a soufflé pour faire quelque chose sur les lustres de Notre-Dame. Et c'était compliqué. Mais tout était très, très, très différent. Je pense même que dans les métiers d'art, il y aura avant et après Notre-Dame.
Retrouvez l'univers de Régis Mathieu sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et pour l'heure, il est 5h passées de 57 minutes ici à Paris. On referme cette demi-heure consacrée à l'actualité africaine en musique. Les programmateurs de RFI vous proposent de découvrir le rappeur Chili. L'artiste français d'origine congolaise s'est fait connaître sur les réseaux sociaux avec son titre « Je la connais ».
Hospitalité, mes idées trop loin pour les visualiser. Là. Ma chérie est traumatisée, m'attise à la belle pour lui dire que j'étais là. Elle attend le communiqué, elle m'attaque pour me niquer. Là. La petite a communiqué, refusé le communiqué. Le formidable, il revient déterminé. Qui est rentré chez moi, ça rappelait le formulaire. Par un petit baba dit ça, et l'autre dit va dormir. Par un petit baba dit ça, et l'autre dit va dormir. Maman salapierre, maman salapierre. J'ai laissé mes voyous dans le bendo, dans des sales affaires. Maman salapierre, maman salapierre. J'ai laissé mes youvois dans le bendo, dans des sales affaires. Ma chérie est banalisée, dans la ville obligée de verbaliser là. Mais c'est quoi ton identité? À la minute embarquée là. Ma chérie est banalisée, dans la ville obligée de verbaliser là. Mais c'est quoi ton identité? À la minute embarquée là.
Depuis demain, tu es formidable, je reviens de terminer. J'y ai rendu chez moi, ça remplir un formulaire.
Le single « Je la connais » du rappeur français Chili. Le retour de l'actualité africaine, ce sera à 6h30, heure de Paris. Mais avant ça, dans quelques secondes, le début des RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.